Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on s'intéresse à l'un des organes les plus étendus et les plus lourds du corps humain. Je veux parler de la peau, à la fois solide et fragile, 2 mètres carrés et environ 3 à 5 kilos chez un adulte moyen. La peau qui n'est pas seulement un bouclier protecteur, c'est également une lanceuse d'alerte qui en dit long sur nous et sur notre état de santé. Ce matin, nous vous délivrons tous les conseils pour en prendre soin, pour la faire vieillir en toute beauté, la réparer en cas d'acné, de psoriasis ou d'eczéma. Vous verrez comment choisir les bons produits selon votre type de peau, quelle est l'alimentation idéale pour l'illuminer, quels sont les rituels quotidiens ou hebdomadaires pour la préserver et ce qu'il faut éviter de faire pour ne plus l'agresser. Nos experts attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. N'hésitez pas à partager vos petits secrets de beauté. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Notre médecin et romancier que l'on retrouve tous les lundis. Quel est le programme ?
On va rappeler que le cabinet médical est un sanctuaire qui mérite d'être sanctuarisé, y compris par les patients eux-mêmes.
Baptiste Beaulieu en direct de chez lui à Toulouse. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Qu'est-ce que vous pensez de la peau d'Alex ?
Alex a une peau superbe avec un grain impeccable.
Ouais, c'est vrai, Alex.
Merci les filles.
Vous ne trouvez pas ?
Ah si, bien sûr, si. Non, Alex a une peau sublime, ça c'est contestable. Seulement, quand on s'approche un tout petit peu, on aperçoit comme des petites rides comme ça autour des yeux là.
Ah oui, ça c'est un début de patte noire.
Ah bon ? C'est vrai, je te jure.
Des petites rides.
Et c'est quoi les espèces de points noirs sur le nez là ?
Ah bah ça c'est le sébum qui s'en quitte.
Ah bon ?
Des rides d'ado ? Des rides d'ado, ouais. J'ai remarqué en plus quand elle est fatiguée, il y a des espèces de plaques rouges en fait qui sortent.
Alors là, je crois que le derme soit sérieusement.
Extrait d'un gars et une fille. Bonjour professeur Philippe Imbert.
Bonjour Ali.
Vous êtes dermatologue, spécialiste en médecine interne. Vous avez récemment publié « Votre peau me dit tout de vous » aux éditions Sidney Laurent. Bonjour docteur Flora Fischer.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue à Paris et vous avez publié chez Robert Laffont « Confession d'une dermatologue ».
Non, confidence d'une dermatologue.
Confidence, qu'est-ce que j'ai dit confession ? Mais c'est aussi, ce sont aussi des
c'est
confessions.
C'est très joli.
Bonjour dermatodré.
Bonjour.
Vous êtes, c'est le pseudonyme sur les réseaux sociaux que vous avez choisi et vous publiez chez Larousse « Faire la paix avec sa peau, boutons, acné, cicatrices, toutes les bonnes solutions ». Alors, professeur Philippe Imbert, la peau est un organe, notre seul organe visible. C'est le plus grand, le plus lourd, le plus sensible, à la fois fort et fragile. Alors, c'est une barrière mécanique, physique, chimique, immunologique, d'une très grande efficacité.
Ah, c'est formidable, vous avez tout dit. C'est une barrière, effectivement, et le premier rôle de la peau, c'est de nous préserver de la perte en eau, puisque nous sommes constitués de 60 à 80% d'eau, et si nous n'avions pas la peau, toute notre eau partirait, puisque vous savez que nous perdons 500 grammes d'eau tous les jours à travers la peau, sans parler de la sueur, etc. Et les autres fonctions sont très importantes.
C'est un organe sensoriel.
C'est un organe sensoriel, donc il a une fonction sociale. Sociétale, nos émotions parlent à travers la peau, c'est une barrière contre les bactéries, et c'est très très bien fait puisqu'on a des molécules antibiotiques sur la peau, les défensines, les catélicidines, c'est une barrière contre les rayons du soleil, on a la mélanine qui nous protège, barrière contre la pollution, tout ça est très bien fait. C'est un organe qui travaille aussi, qui fait de la vitamine D. Pour avoir sa vitamine D, il faut s'exposer au moins un quart d'heure au soleil, et donc faisons travailler la peau pour cela. Barrière mécanique, fonction mécanique essentielle. On ne pourrait pas plier les doigts si la peau n'était pas extensible. Et c'est un des signes du vieillissement, vous le savez.
Et puis c'est un élément de notre identité, Flora Fischer.
Oui, exactement. La peau révèle nos origines. C'est la première chose qu'on voit, notre état de santé, nos émotions. C'est, d'un point de vue psychologique, c'est quelque chose de très important.
Trois couches de peau, professeur Philippe Imbert.
Oui.
La peau, c'est une sorte de millefeuille. Hein.
Oui, c'est ça. Mais qui bouge un peu. C'est un peu comme des lasagnes, si vous voulez. Alors qu'on a toujours dessiné la peau comme des briques et du ciment. Non, pas du tout. C'est meuble. C'est très fluide. Donc l'épiderme au-dessus, au milieu le derme, plus important. Et en dessous, l'hypoderme, plus ou moins important. Ne me regardez pas comme ça.
Pourquoi le derme, c'est l'élément le plus important ?
Le derme, c'est là où passe
c'est
les vaisseaux.
C'est la couche intermédiaire. Hein. Sous l'épiderme, c'est une sorte de matelas de soutien.
Exactement. Et c'est là où passent les vaisseaux nourriciers pour l'épiderme. Nous avons les nerfs également qui passent là, et c'est surtout un treillis de collagène, fibres de collagène, qui font les forces mécaniques et l'élasticité de la peau.
Et l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde sous le derme, et on peut la comparer à un amortisseur ?
Oui, parce que ça a des fonctions mécaniques. Vous recevez un coup, ou même vous êtes assis sur votre postérieur, vous avez l'hypoderme qui joue un rôle, et puis c'est surtout une réserve calorique. puisque ce sont des adipocytes.
Alors Pierrick nous demande pourquoi certains ont la peau sèche, d'autres la peau mixte ou grasse, dermatodrée.
Ça dépend de la sécrétion de sébum, c'est-à-dire de la quantité et de la qualité du sébum qui va donner ce confort à la peau ou pas, justement.
C'est quoi le sébum ?
Le sébum, c'est la graisse naturelle de la peau qui est produite par les glandes sébacées qui sont situées dans le derme, mais qui ont un petit canal au niveau du poil. Donc le sébum sort par là où les poils sortent aussi. C'est ce qu'on appelle les pores de la peau.
Alors c'est quoi une peau sèche ? C'est quoi une peau mixte ?
Et il faut ajouter aussi qu'au fil des années, selon l'âge, on peut avoir des changements, évidemment, à l'adolescence, on a une peau plus grasse avec une plus grande production de sébum et qu'après, ça peut se dessécher.
Alors, qu'est-ce qui caractérise une peau sèche, une peau grasse, une peau mixte ?
Alors, une peau grasse, c'est une peau qui est un petit peu luisante avec cette hypersécrétion de sébum, avec des pores qui sont un petit peu obstrués. La peau mixte, c'est une peau grasse à certains endroits, qui sont souvent ce qu'on a appelé la zone T, le nez, le front, etc.
Et le menton ?
Et le menton, oui. Et les peaux sèches sont des peaux qui produisent moins de sébum, mais peuvent être aussi des peaux qui sont plus irritées, plus soumises à des agressions.
Et qu'est-ce qu'une peau normale, professeur Humbert ?
Alors la peau normale, c'est justement une peau où il y a un très bon équilibre sur le film hydrolipidique de surface qui est constitué à la fois des lipides épidermiques, parce que, et vous l'avez très bien dit, une peau sèche, c'est une peau délipidée en fait. Et donc une peau normale, c'est une peau normalement lipidée avec les lipides du stratum corneum et les lipides du sébum.
Alors existe-t-il une inégalité entre les hommes et les femmes ? La peau des hommes semble plus résistante, plus ferme et plus élastique que celle des femmes. Est-ce vrai, professeur Humbert ?
Oui, parce que je suis là aussi pour défendre les hommes, parce qu'on a deux femmes ici avec nous. La peau des hommes est particulière, elle vieillit différemment, elle est plus épaisse déjà. Elle a les poils au milieu qui jouent un petit peu le rôle de pilier et qui maintiennent la peau beaucoup plus tendue. Nous n'avons pas les hormones féminines, les œstrogènes qui jouent un rôle extraordinaire sur la peau féminine, ce qui donne la qualité, la douceur de la peau des femmes. Donc effectivement, il y a des différences.
Flora Fischer, sur cette inégalité.
Non, c'est vrai, et c'est aussi pour ça que la peau des hommes est effectivement plus résistante, et c'est pour ça qu'on a quand même l'impression, avec les mêmes agressions, le tabac, le soleil dont nous allons parler, que la peau des hommes vieillit moins vite.
Pourtant, la peau du visage des hommes subit des agressions quasi quotidiennes avec le feu du rasoir.
Ah oui, et ben malgré ça, il y a une inégalité, c'est vrai.
Alors, simplement, le rasoir crée un massage mécanique de la peau qui est utile au contraire. Puisque chaque fois qu'on va masser la peau, les cellules se réveillent, les fibroblastes se réveillent et vont s'activer. Donc le massage peut être un traitement du vieillissement.
Les fibroblastes ?
Les fibroblastes, ce sont ces cellules de la peau dans le derme qui fabriquent le collagène, qui fabriquent l'acide hyaluronique. Et
qui sont naturellement présents dans la peau.
Naturellement présents. Et ils sont au repos en permanence, sauf quand on les stimule, lorsqu'il y a une plaie, une agression, ou lorsqu'on va les stimuler mécaniquement.
Thomas nous demande si la barbe contribue à ralentir le vieillissement de la peau.
Eh oui, c'est une bonne question, parce que ces piliers qui vont profondément, comme Dr Drey l'a dit, dans la peau, dans l'hypoderme, même prend l'origine des poils, eh bien ça maintient toute la peau.
Flora Fischer, Claude nous demande s'il faut se laver tous les jours pour avoir une belle peau. On reviendra tout à l'heure sur le rituel quotidien du nettoyage de la peau, mais est-ce que ne pas se nettoyer la peau régulièrement, ça contribue à une belle peau ? C'est un peu paradoxal. Mais...
Oui, ça. Alors, il faut. Moi, je.
Certains défendent cette idée-là.
Oui, hein. Je sais. Alors, je pense quand même qu'il faut se nettoyer la peau tous les jours parce qu'il y a quand même un certain nombre d'agressions, la pollution, etc. Il faut pas se la décaper. C'est-à-dire, il faut se la nettoyer avec un savon doux une ou deux fois par jour. Pas forcément faire plein d'exfoliations, plein de gommages ou les faire de temps en temps, peut-être une fois par semaine ou deux fois par semaine. Mais oui, je pense quand même qu'il faut se laver la peau tous les jours.
Dermatodrée.
Effectivement, oui, je suis d'accord avec Flora, dans le sens où le nettoyage du visage permet d'éliminer les poussières, les polluants, les bactéries peut-être en excès qui sont présentes sur la peau, et une hygiène minimale est nécessaire, sans tomber dans les excès de se frotter le visage avec un gommage, avec des grains, ce genre de choses.
Alors nous recevons déjà beaucoup de questions sur l'alimentation, quel aliment faut-il privilégier pour avoir une belle peau, professeur Philippe Humbert, des fruits et des légumes à chaque repas en variant les couleurs.
Oui, là vous abordez le problème de la vitamine C en particulier, puisque c'est un énorme problème. Avec l'âge, notre stock de vitamine C diminue, et notamment dans la peau. Or, la vitamine C, c'est une vitamine qui aide à la fabrication du collagène. Et donc, il faut que nous apportions de la vitamine C à notre organisme, et comme notre intestin vieillit, il faudrait en apporter davantage encore.
Il ne faut pas hésiter à miser sur certains bons gras, Flora Fischer, comme l'huile d'olive, l'avocat, les noix, les amandes, les noisettes, les poissons gras.
Oui, absolument. Il faut apporter des oméga-3 à sa peau. Il faut apporter les vitamines liposolubles AED, notamment pour avoir une belle peau et pour limiter la déshydratation et le vieillissement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'avoir une belle peau, ça s'inscrit dans une hygiène de vie. On ne peut pas commencer à faire des traitements, des soins locaux, de la cosmétologie, sans avoir privilégié l'hygiène de vie.
Dermatologue.
Ah oui, tout à fait. Les acides gras oméga-3, donc qui sont présents dans notre alimentation, ont un rôle anti-inflammatoire naturel. Donc ils sont très intéressants. On les retrouve dans certains poissons et dans certaines graines, comme les graines de lin, les graines de chia, qui sont intéressantes à rajouter dans notre alimentation.
Mieux vaut ne pas abuser des graisses animales, professeur Humbert.
Oui, de façon tout à fait générale, parce que ces graisses peuvent être pro-inflammatoires. Et l'inflammation, c'est ce qui nous détruit petit à petit.
Pourquoi a-t-on souvent le teint brouillé après avoir beaucoup trop mangé, professeur Mer?
Là, c'est une question où vont être mêlées à la fois la microcirculation, qui va être différente. Il y a également la peau qui réagit sous forme de plaques, éventuellement. On a aussi la pigmentation qui peut venir de déséquilibre alimentaire. Certaines carences vitaminiques vont donner des teints particuliers. Et puis probablement aussi la qualité du sommeil qui va être impactée et qui va jouer notamment sur l'aspect de la peau, des paupières et du contour des yeux.
Dermatologue, sur ce teint brouillé, ça a un lien avec le foie, avec les intestins, quand on a beaucoup trop mangé et qu'on a ce teint un petit peu...
Effectivement, je pense que ça vient un peu d'une sorte de légende urbaine, de dire que ouais, j'ai le foie un peu plein de toxines, etc. C'est pas encore bien prouvé sur le plan médical, c'est-à-dire qu'on n'a pas de prise de sang qui pourrait nous quantifier exactement est-ce qu'il y a des toxines, par exemple, dans le foie ou dans les intestins. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien énorme entre les intestins, le système nerveux et la peau. Ça fait un triangle comme ça qui s'envoie mutuellement toutes sortes de molécules, des hormones, des cytokines. Et c'est pas encore tout à fait bien exploré, mais on se rend compte qu'il y a des liens qui sont très forts.
Flora Fischer.
Oui, et c'est vrai que l'auteur qui a écrit ce très bon livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin, c'était au départ une jeune femme, une scientifique, qui avait des problèmes de peau. Je crois qu'elle avait des problèmes de psoriasis. Et c'est en cherchant des choses sur le microbiote intestinal qu'elle en est arrivée à la conclusion qu'il fallait bien avoir un bon microbiote intestinal pour pouvoir avoir une belle peau.
Elle s'appelait Julia Enders, oui, c'est ça. L'autrice du charme discret de l'intestin. Ne pas boire assez d'eau, est-ce que ça a un impact sur l'éclat de notre peau, professeur Humbert?
Oui, la peau déshydratée par manque d'eau va être plus fine, il va y avoir des problèmes de desquamation des cellules également, de rétention donc de ces cellules. Et donc nous avions d'ailleurs travaillé sur le fait de boire 1,5 litre, et en buvant 1,5 litre, on a une peau de meilleure qualité, presque comme si on appliquait le plus mauvais des cosmétiques. Donc des effets quand même intéressants.
Vous confirmez?
Ah oui, tout à fait. Ça fait aussi partie de l'hygiène de vie, absolument.
Ah, c'est sûr, quand on est déshydraté, on a des petites ridules sur la peau. On s'en rend compte quand on est à l'hôpital avec des personnes qui sont en vraie déshydratation. On peut pincer leur peau et elle tient toute seule entre les doigts.
Alors attention, le maintien d'une quantité d'eau suffisante dépend également des lipides présents dans l'épiderme. Hein. Les céramides, hein, c'est ça, c'est le ciment de la couche cornée.
Oui, tout à fait, les céramides, les sphingolipides, ce sont des lipides de structure particulière, n'ayons pas peur, ce ne sont pas des lipides énergétiques qu'il faut prendre du poids, non, pas du tout, ils donnent la souplesse de la peau.
Et pourquoi avons-nous mauvaise mine quand nous avons mal dormi ou passé une nuit blanche? Qu'est-ce qui se passe dermatodré?
Ça va être surtout un problème de circulation sanguine. C'est-à-dire que le matin, quand on se réveille après une mauvaise nuit, on peut avoir les yeux gonflés, les yeux cernés, parce que le drainage en fait du sang et de la lymphe qui se trouve au niveau de l'orbite, donc autour de l'œil, ne s'est pas bien fait.
Est-ce que vous conseillez justement au lever un massage facial pour justement pour dégonfler tout ça et se donner bonne mine, professeur Humbert?
Personnellement, j'ai pas l'expérience de cela. Je vais laisser la parole
à Matt Audrey ou Flora Fischer.
Moi, je pense que ce serait bien, oui, de masser. Alors, pour faire un mini drainage lymphatique au niveau des paupières, en fait, il faut suivre le trajet lymphatique, c'est-à-dire que ne pas aller de l'intérieur vers l'extérieur, mais le contraire, d'aller de l'extérieur vers l'intérieur.
Avec des petits tapotements sur la peau. Le matin.
Professeur Grossens de Strasbourg expliquait bien qu'il y avait des mouvements oculaires la nuit, notamment au moment du sommeil paradoxal, qui faisaient une sorte de massage à l'intérieur de la cavité orbitaire pour drainer justement le réseau lymphatique.
Et nous accueillons Véronique, vous appelez de La Bolle Escoublac, c'est ça ?
En Loire-Atlantique. Oui,
bienvenue, Véronique. Alors, quelle est votre question, votre conseil beauté?
Alors, en fait, moi, je me posais la question concernant le brossage du corps, enfin, de la peau en général, donc du corps et du visage. J'ai acheté récemment, donc, deux brosses différentes, une pour le visage et une pour le corps. Donc, a priori, c'est une technique ancestrale, brosser le corps, enfin, la peau. Et la personne qui m'a vendu les brosses me conseillait de procéder donc au brossage deux fois par semaine. Mmh. Et moi, ma question était de savoir si on pouvait brosser à la fois son corps de façon... Enfin, c'est très énergique, hein, le corps. On sent vraiment que ça revigore bien, bien la peau, notamment sur les cuisses. Et puis sur le visage, c'est très agréable parce que vous parliez du drainage lymphatique tout à l'heure. C'est vraiment très agréable parce qu'on va du centre vers l'extérieur. C'est vraiment très agréable. Donc ma question était de savoir si on pouvait procéder au brossage à sec tous les jours. Est-ce qu'on ne risquait pas d'abîmer notre peau?
Dermatologue Audrey.
Bonjour, j'allais vous poser la question justement, s'agit-il d'un brossage à sec ou d'un brossage sur peau humide, parce que les effets vont être complètement différents. Le brossage à sec, on est plus proche du massage, alors que le brossage sur peau mouillée, ça va être plus proche de l'exfoliation, c'est-à-dire du gommage. Donc ça va dépendre de la sécheresse et de la sensibilité de votre peau. Le brossage du corps, il peut être réalisé tous les jours en guise de massage, il n'y a pas de problème. Au niveau du visage, il y a différents types de brosses qui sont disponibles. On trouve également, les auditeurs vont peut-être faire la confusion, il y a des brosses de nettoyage qui sont sur le marché actuellement, assez à la mode. Ce sont des brosses électriques rotatives qui permettent un nettoyage du visage, un nettoyage souvent assez profond, donc il ne faut pas insister sur les peaux sensibles. Mais le brossage à sec est possible en guise de massage au rythme que vous souhaitez. Bien sûr, il faut tenir compte un peu de la sensibilité de votre peau. Si vous avez beaucoup de rougeur après, peut-être lever le pied un peu, lever la brosse.
Véronique, est-ce que vous constatez sur votre peau? Racontez-nous un petit peu, faites-nous rêver.
Alors, sur le visage, c'est très agréable, parce qu'il y a, voilà, c'est très doux, c'est parfait, donc savoir que je peux faire ça tous les jours, ça me convient très bien. Sur le corps, déjà, la brosse, elle est un peu plus dure, un peu plus rêche. Donc, en passant, alors, notamment, parce que moi, je suis quelqu'un, je vais bientôt avoir 58 ans, en passant sur les cuisses, on sent qu'il y a une réaction, il y a quelque chose qui se passe et il y a des rougeurs, mais en même temps, je trouve que ça diminue la cellulite. C'est vraiment très bien, à la fois sur les cuisses et sur les bras, c'est parfait.
Merci beaucoup Véronique pour votre conseil beauté. Alors dans un instant, vous verrez comment atténuer les cernes. Ce sera juste après Fleetwood Mac qui interprète Dreams à 10h24. Pas bien là avec Fleetwood Mac qui interprétait Dreams.
Ah, je suis sec là, Alex, regarde, regarde comme je suis sec, regarde.
Grand bien vous fasse.
Tu veux prendre cette crème là ?
Non, 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 attends, c'est ma crème contour des yeux, ça, s'il te plaît, très cher. Fais ça.
Ali Rébéi.
Tiens, je te la donne, celle-là, tu peux la garder.
C'est pénible. C'est quoi cette crème là ?
C'est une crème pour les pieds.
Sur France Inter.
Et ce matin, nos experts partagent des conseils pour avoir une belle peau à tous les âges. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer des messages vocaux ou écrits sur l'appli France Inter. Énormément de messages ce matin. Laetitia qui nous demande comment expliquer une peau atopique. Professeur Philippe Humbert, dermatologue et spécialiste en médecine interne.
Oui, ma vision de la dermatite atopique, c'est une vision systémique puisque c'est une peau qui prédisposé à faire de l'eczéma, donc c'est une peau qui est sèche. Effectivement, beaucoup d'analyses ont été faites sur la structure de cette peau, mais également il y a des messages qui viennent de l'intérieur du corps, et notamment du tube digestif. Donc c'est une peau tout à fait sensible, particulière.
Et, Flora Fischer, dermatologue.
Le terrain atopique, c'est certaines personnes qui ont une certaine sensibilité, qui ont une certaine réaction à un certain nombre de choses extérieures et qui ont tendance à faire de l'asthme, du rhume des foins, de la dermatite atopique, donc de l'eczéma, des conjonctivites.
Dermatodré, c'est pour vous. Comment lutter contre les rougeurs et les petits boutons sur les joues? C'est une question de Charlotte.
Quand on a des rougeurs et des petits boutons à la fois, il s'agit souvent de rosacée. Ce qu'on appelait avant l'acné rosacée, mais finalement, ce terme-là d'acné rosacée mélangeait un peu de maladies. Maintenant, on parle plutôt de la rosacée. Donc, c'est un terrain où on trouve à la fois des rougeurs, soit des rougeurs permanentes, on appelle ça de la coupe rose, soit des rougeurs temporaires, ça s'appelle des flushes. Et puis, ça peut s'associer à des boutons, la rosacée, qu'on appelle papulopustuleuse. C'est un mot qui fait un peu peur, rien que le mot. Mais finalement, ce sont des boutons enflammés qui ressemblent à de l'acné, mais il n'y a pas de points noirs, il n'y a pas de microkystes.
Comment on lutte contre ces rougeurs et ces petits boutons associés ?
Contre les rougeurs, il faut déjà utiliser des cosmétiques qui vont être très doux, spécifiques pour les peaux sensibles, pour ne pas réactiver ces rougeurs. Et puis, on peut faire du laser si les rougeurs sont permanentes. Il y a aussi des médicaments vasoconstricteurs qu'on peut appliquer sur la peau pour faire se refermer temporairement les vaisseaux. Ça, c'est pour le côté rougeur. Et ensuite, pour le côté bouton, il y a des médicaments. Alors, en cosmétique, on peut utiliser de l'acide azélaïque. C'est un bon produit pour commencer à traiter la rosacée. Et puis, on a de l'acide azélaïque plus dosé dans des médicaments, voire des antibiotiques, soit sous forme locale, du métronidazole, soit sous forme de comprimé, qu'on prend sur plusieurs mois, par contre.
Professeur Humbert.
Oui, lorsque cette acné rosacée ne répond pas vraiment au traitement, il faut penser à une maladie qui peut faire peur, puisqu'elle est due à des petits crabes, des petits parasites qu'on appelle le Demodex, qui se promène sur la peau et qui va faire des petits boutons. Très, très, très légers, très fins, surtout unilatéraux et pas moins symétriques que dans l'acné rosacée. Et il faut penser à ces petits parasites qui donnent la maladie démodécidose, assez fréquente.
Mais on en a tous sur la peau, hein, des Demodex, nous tous autour de la table.
Tous même moi
Même vous, Ali, même vous qui êtes si parfait, vous en avez certainement dans vos pores. Et la nuit, ils se déplacent et ils changent de pores.
Je vais faire gaffe, là, la nuit prochaine. Alors, juste avant le disque, on évoquait la nuit réparatrice pour notre peau. Comment lutter efficacement contre les cernes sans investir forcément dans des crèmes anti-cernes, docteur Flora Fischer?
Alors, on a parlé tout à l'heure du drainage lymphatique, c'est-à-dire de faire des petits massages, des l'extérieur vers l'intérieur en suivant le trajet lymphatique et on peut aussi utiliser un certain nombre de correcteurs, un certain nombre de...
C'est vraiment efficace?
Mais alors, il y a
des yeux dans les yeux?
Il y a des correcteurs, exactement. Il y a des correcteurs en fait qui peuvent s'appliquer avec un espèce de roller qui continue le massage et qui contribue à améliorer les cernes.
Dermatonnerie.
Pour les cernes, je pense qu'il faut différencier les deux types de cernes. Les cernes pigmentaires, des cernes vasculaires et des cernes creux. Il y a plusieurs types de cernes. Mmh. Déjà, génétiquement, on voit qu'au niveau de l'anatomie, on est tous différents. Des personnes, même avec une bonne nuit de sommeil, qui auront des cernes creux parce que c'est la forme de leur visage. Ils peuvent dormir tant qu'ils veulent, ils peuvent mettre tous les cosmétiques qu'ils veulent. Malheureusement, ça ne changera rien. Sur les cernes creux, il y a des techniques de médecine esthétique avec des injections d'acide hyaluronique qui peuvent être faites, qui sont assez délicate à faire. Hein. Vraiment, c'est pas à faire
Oui, parce qu'il faut piquer à contact osseux, c'est vraiment à la base de la cerne.
C'est assez délicat, ça, voilà. C'est pour les cernes creux. Après, pour les cernes pigmentaires, il y a différents peelings, lasers qui ont été essayés. Honnêtement, c'est pas très efficace. On est un peu... C'est-à-dire que ça revient. Après, on peut enlever du pigment et puis ça revient. Et puis, pour les cernes vasculaires, comme disait Flora, c'est là où le côté drainage, micro-circulation et le côté alimentation va avoir de l'importance.
Et certains lasers vasculaires peuvent fonctionner un petit peu sur ce genre de cernes.
J'aimerais qu'on s'intéresse aux grands ennemis d'une belle peau. Aïcha nous demande, par exemple, pourquoi le stress contribue à une mauvaise peau?
Alors le stress, oui merci Ali, le stress va induire des réactions de notre organisme au travers du système nerveux végétatif, celui qu'on ne contrôle pas, celui qui va réagir en dehors de toute volonté de notre part. C'est par exemple, sous l'effet du stress, une vasoconstriction. Les vaisseaux de la peau vont se vasoconstricter, on va avoir la peau pâle. On va avoir une sueur qui va se mettre en jeu et qui avait des fonctions. C'était notamment pour adhérer au sol lorsqu'on doit fuir. On a également les mains moites pour également tenir des outils ou des armes à ce moment-là. Et puis, les pupilles vont se dilater. Tout a été fait dans ce système neurovégétatif pour faire face au stress, à un ennemi qui est là. Et donc la peau, si on a beaucoup de stress, va alterner vasoconstriction, vasodilatation, sudation, sébum, et on va avoir des dégâts sur la peau.
Et il faut rappeler que le stress est impliqué dans certaines pathologies cutanées, hein, comme le psoriasis ou l'eczéma.
Oui. On sait aujourd'hui, depuis 2014, heureusement qu'il y a eu cette étude, qu'un malade sur deux qui a un psoriasis a un état dépressif, peut-être dû à la maladie lui-même, et donc qu'il faut prendre en charge.
Et donc diminuer le stress peut vraiment aider à réduire les poussées de psoriasis ou d'eczéma?
Oui, ça a été également tout à fait étudié. Quel est le stress en fait? C'est le mode de réponse à des événements douloureux de la vie, qui sont souvent des séparations, qui sont des agressions, qui sont des violences notamment, qui peuvent avoir eu lieu 20 ou 30 ans plus tôt.
Dermatodré, je rappelle que c'est votre pseudo sur les réseaux sociaux, que vous êtes une vraie dermatologue.
Oui, tout à fait. Le stress va agir par l'intermédiaire du cortisol, donc certaines hormones qui sont produites par les surrénales. Et ce cortisol va se diffuser dans tout le corps et va agir sur notre système immunitaire. Donc les globules blancs qui normalement sont dans la peau, qui font juste un travail de régulation des bactéries par exemple présentes sur la peau. Le cortisol va aller les gêner, va leur mettre des petits à-coups de freinage et puis après des accélération par rebond. Et ça retentit sur toutes les maladies inflammatoires de la peau, que ce soit l'eczéma, le psoriasis, voilà, ou d'autres inflammations.
Un autre ennemi de la peau, d'une belle peau, eh bien, c'est le tabagisme. Pourquoi le tabac est si mauvais pour notre peau ?
Le tabac va lui aussi agir sur notre immunité, sur les globules blancs qui sont présents dans la peau. Toutes les toxines du tabac gênent l'activité des globules blancs et donc on peut avoir plus d'acné, plus d'abcès, on le voit, beaucoup plus de kystes qui s'infectent, beaucoup plus de maladies de Verneuil. Peut-être que les auditeurs parmi nous voient ce que c'est, la maladie de Verneuil. Ce sont des abcès qui se forment au niveau des plis, des dessous de bras, sous la poitrine, au niveau du périnée. Une maladie qui peut être assez handicapante quand il y a beaucoup d'abcès.
Et la nicotine nuit à la micro-circulation, cette micro-circulation si importante pour avoir une belle peau?
Oui, tout à fait. La conséquence à long terme, c'est que l'épiderme a tendance à s'épaissir de manière irrégulière avec le tabac. C'est ça qui donne ce teint un peu jaunâtre, irrégulier chez les personnes qui fument. Et le tabac augmente aussi de manière générale la sécrétion de sébum. Donc on a beaucoup plus d'acné et de cicatrices chez les gens qui fument.
Professeur Amer.
Et le tabac est surtout encore plus dangereux chez la femme puisqu'il a des actions anti-œstrogènes. Mmh. Et donc il va contribuer à faire perdre les cheveux, à donner de l'acné, à abîmer la peau.
Flora Fischer.
Oui, non, c'est exactement ça, c'est exactement toutes ces raisons. Et le tabac dessèche beaucoup la peau et c'est un ennemi, notamment des femmes, notamment de la peau des femmes.
Oui.
Mon cher Baptiste Beaulieu, vous vouliez intervenir?
Oui, rappeler notamment pour toutes les patients et les patientes qui subissent une opération chirurgicale que c'est toujours fortement recommandé d'arrêter le tabac pour pouvoir bien cicatriser après l'opération. Le tabac nuit à la bonne cicatrisation de l'épiderme.
Oui, et on conseille d'ailleurs d'arrêter, quand on doit subir une opération, on conseille d'arrêter le tabac au moins un mois avant l'intervention et de continuer l'arrêt tout le temps, voire au moins six semaines.
Si on ne parvient pas à arrêter de fumer, est-ce que vous conseillez de se supplémenter en certaines vitamines, vitamine C par exemple, dermatodré? Le mieux ce serait d'arrêter de fumer, mais si on n'y arrive pas.
Je ne sais pas de quelle façon est-ce que le tabac agit sur le mécanisme des vitamines. Dans tous les cas, un sevrage, même de diminuer la quantité, ce sera toujours bénéfique. Donc, et puis éventuellement utiliser la cigarette électronique comme substitut, au moins sur certaines cigarettes.
Alors que sait-on de l'impact de la pollution atmosphérique sur notre peau, professeur Humbert?
Alors, la pollution a des effets qui sont assez similaires à ceux du tabac. Des études ont été faites avec des personnes qui vivent à côté des autoroutes, c'est l'endroit où on a le plus d'exposition. Et qu'est-ce que l'on a vu? Que la peau était beaucoup plus marquée, les rides sont plus profondes, il y a plus d'acné et il y a plus de taches pigmentaires également. Et
dans ces cas-là, si on habite à côté d'une zone polluée, d'une autoroute, ou bien vous conseillez tout de même de se nettoyer la peau profondément chaque soir, de se la démaquiller
Alors, profondément, peut-être pas pour pas l'agresser, mais de la nettoyer tous les soirs, ça c'est vrai que c'est important. Surtout si on se maquille, on peut faire ce qu'on appelle un double nettoyage. C'est-à-dire utiliser d'abord un produit plutôt gras qui va absorber le maquillage, les produits de protection solaire et les polluants qui peuvent être plutôt coincés dans le film lipidique. Et puis ensuite, on complète avec un nettoyant hydrophile, donc aqueux, qui va aller enlever la partie liquidienne.
Venons-en au soleil, le soleil qui donne une bonne mine, un joli teint hâlé, mais avec modération, dermatodréen. Quelles sont les règles de base, les conseils de base concernant l'exposition solaire?
Il faut s'adapter à son phototype, en fait. On a tous des capacités de défense différentes vis-à-vis des UV. Ça va dépendre de notre quantité de mélanine. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Est-ce qu'on a la peau claire ou foncée? Mais aussi des capacités de réparation de l'ADN. Et ça, on peut pas deviner. Grosso modo, s'il y a beaucoup de cancers de la peau dans votre famille, s'il y a beaucoup de taches de rousseur aussi, c'est un bon témoignage, les taches de rousseur, parce qu'il y a une mélanine particulière dedans, qui fait un peu la double peine. C'est-à-dire qu'elle protège pas bien contre les UV et elle produit des radicaux libres. Pour les gens qui ont des taches de rousseur, c'est vraiment un signal que protégez-vous bien du soleil.
Comment choisir sa crème solaire et à quel rythme doit-on s'enduire de lotion solaire? Là, on arrive au beau jour. Est-ce qu'il faudrait, quand on sort de chez soi tous les jours, mettre une protection solaire?
Oui, moi je pense en fait que qu'il faut pas se dire je mets de l'écran total que quand je vais sur la plage. Il faudrait commencer à en utiliser au moins dès le mois de mars ou avril sur le dos des mains et sur le visage tous les jours. Il faudrait même que dans sa crème de jour, on ait une protection. Et même si on est jeune, en fait, il faut pas se dire c'est que à partir du moment où j'ai déjà des taches que je commence à agir. Il faut agir en amont.
Comment faire disparaître les taches brunes liées à la surexposition du soleil?
Alors, il faut déjà arrêter l'exposition, c'est-à-dire qu'on a un capital soleil et une fois qu'on l'a atteint, il faut se dire là, je me mets sous le parasol, je me protège systématiquement, je ne cherche pas l'exposition. Donc déjà, il faut mettre un chapeau, une casquette, il faut faire tout ça, parce que c'est déjà la première chose à faire, c'est-à-dire avant de chercher si un sérum dépigmentant peut être efficace ou si une technique chimique comme un peeling ou une technique lumineuse comme le laser pourrait être efficace, il faut déjà de toute façon se sevrer du soleil. C'est pas ça qui va empêcher de fabriquer de la vitamine D, de ne plus s'exposer.
Dermatodré.
Il faut changer notre comportement vis-à-vis du soleil et arrêter cette idée que le bronzage, ça nous donne bonne mine et finalement, le bronzage serait synonyme de bonne santé. Le bronzage, c'est la réaction du corps vis-à-vis des dégâts causés par les UV. Donc, il y a des personnes qui sont bronzées naturellement, c'est super parce qu'elles savent se défendre naturellement vis-à-vis des UV. Mais pour les personnes qui ont la peau claire, quand on pousse le bronzage, c'est mauvais signe.
Je vous propose d'écouter Karine qui nous a laissé une note vocale.
Oui, bonjour, grand bien vous fasse. Voilà, j'aimerais savoir quelles seraient les solutions réellement efficaces pour la peau après la ménopause. qui est extrêmement dénourrie, déshydratée, sachant que j'ai essayé beaucoup de choses, des crèmes, des sérums, je bois beaucoup d'eau et j'ai également essayé des solutions par voie orale, des comprimés, gélules diverses et variées, et j'ai toujours la peau qui tiraille vraiment de façon très forte tout au long de la journée.
Docteur Flora Fischer.
Oui, alors c'est vrai que en plus d'une bonne hygiène, de bons cosmétiques, il faut effectivement utiliser des gélules de collagène et une supplémentation en oméga 3 par gélule, parce que l'alimentation ne va peut-être pas suffire au moment de la ménopause. Et puis on peut aussi avoir recours à des techniques dites esthétiques, tout ce qui est mésothérapie, c'est-à-dire apporter à la peau ce qu'elle n'a plus, un peu de l'acide hyaluronique avec des solutions vitaminées, des solutions.
Attention à la mésothérapie qui doit être faite par un professionnel
par
de santé.
Oui, tout à fait. Bien sûr.
Dermatodré.
J'ai pensé à un petit conseil tout simple. Quand les personnes ont les jambes très sèches avec des sortes d'écailles, on dit de peau crocodile, ce qu'on peut trouver en pharmacie, c'est des crèmes qui contiennent 10% durée et qui améliorent très bien cet aspect peau de crocodile.
Professeur Lambert, pour le corps.
Oui, à 50 ans, l'âge de la ménopause, c'est l'âge aussi où on a des maladies et où on prend des médicaments. Eh bien, certains médicaments, par exemple, qui bloquent la sécrétion acide de l'estomac, vont bloquer l'absorption de vitamine B12 et on va manquer de vitamine B12 qui va jouer sur le vieillissement. Mmh. Une vitamine qui est très importante au-delà de 50 ans, c'est la vitamine C, puisqu'on sait qu'à 60 ans, on a moitié moins de vitamine C dans sa peau qu'à 20 ans. Or, cette vitamine C, on va l'appliquer sur la peau par des crèmes avec un massage pour réduire cette ptose qui fait que les bajoux vont apparaître. À la fois vitamine C, massage mécanique pour relancer l'activité du fibroblast. Et je pense que là, on améliore les choses.
Allez, il est 10h44, l'heure de retrouver la chronique de notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, vous savez que j'ai été très critique avec la gestion de la crise sanitaire par ce gouvernement et selon moi, ils n'ont pas vraiment brillé ni par compétence, ni par leur pédagogie, ni par leur honnêteté parfois envers les Français. On se souvient encore du mensonge sur les masques. Et pour autant, Ali, il me semblerait injuste de mettre sur le dos du gouvernement ce qui est parfois imputable à la seule indiscipline des gens. Moi, je ne compte plus le nombre de fois au cabinet médical où je demande aux patients de bien vouloir mettre un masque en salle d'attente pour eux, pour les autres, pour qu'ils ne tombent pas malades ou qu'ils ne contaminent pas. Je fais la police, en fait, y compris auprès de patients fragiles ou à risque, c'est épuisant. Et oui, le Covid est toujours là, il circule encore. On compte une augmentation importante du nombre d'hospitalisations chez les jeunes et plus de 1500 malades hospitalisés en réanimation pour Covid. Concrètement, c'est un peu plus de 100 morts par jour en France. S'il ne fait aucun doute que la vaccination elle a été efficace, elle s'est heurtée à l'apparition des variants ou à un refus de la politique vaccinale. Et je crois qu'on ne se rend pas bien compte, mais plus de 3000 personnes sont mortes depuis début mars et près de 21 000 depuis le début de l'année 2022 dans une indifférence effrayante. Et ces morts sont devenues des statistiques, ce ne sont plus des événements. Comme l'a écrit l'écrivain allemand Kurt Tucholsky, la mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique. Et ce n'est pas parce que nous en avons marre, Ali, que le Covid n'existe plus, mais c'est parce qu'il ne fait plus la une que notre appréciation du risque est modifiée. En vérité, on sait combien nos croyances influent sur la perception des risques et celles-ci sont directement contingentes de la médiatisation accordée ou pas à un risque. En gros, notre cerveau trie les informations et les plus disponibles, c'est-à-dire les plus médiatisées, seront considérées comme plus importantes. La guerre en Ukraine a chassé le Covid et la guerre elle-même a été chassée par les élections présidentielles. Pourtant, à titre personnel, en tant que médecin généraliste, j'ai deux patients au cabinet médical, la trentaine, aucun antécédent médical particulier, aucun facteur de risque, en bonne santé, sportifs, qui ont attrapé le Covid et qui ont depuis perdu une bonne partie de leur capacité respiratoire, ce qui a généré un handicap fonctionnel majeur dans leur vie quotidienne. Ils sont essoufflés tout le temps, au moindre effort, ils toussent tout le temps, avec les conséquences psychologiques qu'on peut imaginer. Donc non, il ne s'agit pas d'une grippette, Alice. Je n'ai jamais vu de patient de 30 ans qui, au sortir d'une grippe, hérite de poumons comme ceux qu'on retrouve sur les images scanner des patients Covid. Et je sais que c'est éprouvant, qu'on veut tous et toutes passer à autre chose, mais si les médecins sont capables de garder un masque toute la journée, je pense que les patients devraient être capables de le garder une heure en salle d'attente. L'épidémie n'est pas terminée et un cabinet médical n'est pas un lieu neutre. Des personnes fragilisées y croisent d'autres personnes encore plus fragilisées. Il faut les protéger en y gardant les masques et les gestes barrières.
Baptiste Beaulieu, merci beaucoup. Votre chronique est à podcaster et à partager sur l'appli France Inter. On continue dans quelques instants à échanger des conseils pour avoir une belle peau. Ce sera juste après M.
Je passe dans ta radio. Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots. Comme je t'aime, faut que je passe dans ta radio. Faut que je passe dans ta radio. Dans ma voix, tu scannes les moindres mystères de ce tube FM éphémère. Tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances. Et pour que les ondes de cette chanson se glissent dans ta maison, faut que je passe dans ta radio.
Interprété dans ta radio.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et nos experts partagent ce matin des conseils pour avoir une belle peau à tous les âges. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. J'aimerais qu'on en vienne aux rides et aux ridules. Est-il vrai que les trois quarts de notre vieillissement cutané est lié à la surexposition solaire, au tabac, à la pollution? Professeur Philippe Imbert.
Oui, ce sont les facteurs exogènes, et puis il faut pas oublier les facteurs génétiques endogènes. On hérite du mode de vieillissement de nos parents et grands-parents.
Pourquoi la peau perd-elle en fermeté au fil des années? Le contour du visage paraît plus fou, plus flou, moins net, comme si on subissait les effets de la pesanteur dermatodrée. Je rappelle que vous êtes dermatologue.
Exactement, la gravité fait son travail et pousse vers le bas certaines structures qui sont mobiles sur le visage, parce qu'il y a des plantes glissement, donc les muscles qui glissent par rapport aux os et les structures graisseuses aussi qui créent normalement les volumes du visage. On a une poche au niveau de la joue qui s'appelle la poche de Bichat qui va fondre avec le temps et creuser un peu le visage. On le voit aussi au niveau des tempes, des creux donc à côté des yeux qui ont tendance à se creuser avec le temps.
Alors que faire? Que conseillez-vous, Flora Fischer? Je rappelle que vous êtes dermatologue.
Oui, parce que le tissu de soutien, en fait, c'est s'amoindrit avec le temps, et c'est vrai que.
Et que faire si on n'a pas envie d'utiliser de crème anti-rides? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Se protéger du soleil. Voilà,
exactement, se protéger de tous les facteurs extérieurs.
Bien se protéger du soleil parce que, comme on le disait à l'instant, les UV sont les premiers responsables du vieillissement de notre peau. Ils vont aller détruire directement l'ADN de nos cellules, donc les gêner dans leur fonctionnement. Et ils vont aller détruire aussi les protéines, les fibres de soutien du derme, casser le collagène, les fibres élastiques et produire des radicaux libres. Les radicaux libres sont des produits toxiques qui vont aller gêner tout le fonctionnement cellulaire.
Alors, comment bien nettoyer sa peau? Que conseillez-vous pour ne pas l'agresser? Quelle est la routine pour une belle peau?
Alors, moi déjà, pour les femmes, je leur conseille de se démaquiller tous les jours et de vraiment se démaquiller, c'est-à-dire d'utiliser une eau micellaire ou un lait démaquillant, pas juste passer du savon et rincer son maquillage, vraiment se démaquiller. Et je conseille de se laver avec un savon doux au moins une fois par jour, voire deux fois par jour. Et un savon adapté à sa peau.
On a beaucoup de questions sur le savon de Marseille. Est-ce que vous conseillez?
Moi, je trouve ça assez desséchant.
Ouais. Le problème du savon de Marseille, c'est que quand on regarde la composition, c'est de l'huile d'olive et de la soude. Donc on obtient un pH qui est très alcalin, qui est contraire au pH naturel de la peau, qui, elle, est naturellement acide, un pH autour de 5,5. Le pH du savon, c'est 8. Si vous mettez ces deux produits en contact, de la peau et du savon, vous allez modifier le pH de la peau. Et la peau, elle a besoin de ce pH acide pour fonctionner, pour se défendre contre les bactéries, pour être en bonne santé.
Alors Jacqueline nous écrit, comment avoir une belle peau, et bien vous prenez un gant de toilette, vous le mouillez, vous frottez dessus un bon savon, une bonne savonnette, et vous avez une belle peau assurée toute votre vie. Basta les crèmes en tout genre, basta les cabinets d'esthéticiennes. J'ai 76 ans et une peau de bébé, comme on dit.
Et oui, mais les facteurs génétiques, on vient d'en parler, entrent en ligne de compte. Hein. Tout le monde n'a pas votre peau. Alice.
Et il y a peut-être un ennemi également de la peau, c'est l'eau. L'eau toute seule, il faut pas utiliser d'eau seule, il faut toujours qu'il y ait un petit émulsion. Non, l'eau va déshydrater en fait.
Surtout si elle est calcaire.
Oui, surtout si elle est calcaire et surtout si vous avez déjà la peau sèche. Parce qu'il y a une fonction de notre peau qui est très importante, c'est l'hydrophobie. Notre peau rejette l'eau. Et plus vous avez la peau sèche, plus cette hydrophobie est importante. En tout cas, l'eau toute seule n'est pas bonne pour la peau.
Et puis ne pas oublier de s'hydrater le visage et le corps, c'est très important, dermatologue.
Surtout si on a une sécrétion de sébum qui est faible. En fait, on parlait du rythme du nettoyage, il est très variable. Il y a des personnes qui ont la peau grasse et à peine elles viennent de se laver le visage, une heure après elles ont déjà une peau luisante qui aura refabriqué du sébum. Donc ces personnes-là peuvent se nettoyer le visage avec du savon deux fois par jour. Mais et pour autant, il y a des personnes qui ont la peau très sèche, je pense notamment aux personnes âgées, qui, elles, peuvent se laver le visage juste avec de l'eau. Et en fait, l'essuyage de la serviette va être suffisant pour enlever le peu d'excès de sébum.
Est-ce que vous conseillez de faire des masques maison, des gommages maison, une fois par semaine, dermatologue?
Alors, moi, ce que je peux déconseiller, ce sont les gommages avec des grains qui sont faits à partir de noix broyées, de sucre, de marc de café, etc.
Ça vous déconseillez, on a une peau grasse ou une peau mixte?
Au niveau du visage, c'est vraiment déconseillé. D'accord. Au niveau du corps, on peut, mais en fait, on se rend compte que quand on fait ce type de gommage sur une grande surface, on sera plus la main que la zone traitée. Donc au niveau du visage, pas de grains. Il y a beaucoup de cosmétiques qui contiennent des acides de fruits qui vont avoir cet effet de peeling très léger, progressif, bien mieux qu'un gommage.
Et une recette de masque maison facile à faire une fois par semaine? Moi j'en ai une, huile d'olive, miel et jus de citron. Flora Fischer, vous...
Oui, pourquoi pas. Sinon il y a c'est les choses à base de miel qui peuvent avoir
de yaourt,
miel,
blanche aussi.
Le miel a un côté cicatrisant, l'argile a un côté anti-séboréique, peut être intéressant.
Et il y a la vitamine C dans le jus de citron, oui, mais attention à la pigmentation.
C'est ça, pas s'exposer au soleil juste après.
Samy qui nous dit qu'après un hammam, il a une très belle peau. Comment ça s'explique, dermatodré? Vous conseillez des saunas ou des hammams faciaux à la maison avec un bol d'eau chaude et une serviette sur la tête, ça peut faire du bien à la peau.
ce sera meilleur sous forme de hammam ou de sauna général quand on met tout le corps dedans, parce que ça agit mieux sur la circulation. En fait, quand on sort d'un sauna ou d'un hammam, on a la circulation sanguine qui a été bien activée, les vaisseaux qui sont un peu dilatés. En général, on a bonne mine. Et puis, la peau est égale. Après, surtout après le hammam, avec la vapeur, la peau est gonflée un peu d'eau et rebondit.
Et puis, ça permet de se débarrasser d'un certain nombre de toxines. Et ça aussi, c'est intéressant.
Et d'enlever également les cellules qui s'accumulent et qui donnent ce teint interne. Mortes, et donc, après, la peau est plus fine et plus radieuse.
Ouais. Et nous terminons avec Frédéric. Bienvenue, Frédéric. Vous appelez de Paris.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Ma question pose sur l'acné juvénile. Mon fils a 15 ans et je voulais avoir votre conseil en tout cas. Il n'a pas de boutons jusqu'à maintenant.
Quelle chance.
Et je voulais savoir si c'est trop tard ou si ça peut venir encore ou si c'est ou il n'en aura jamais.
Il a une belle peau.
Oui. Est-ce que c'est génétique, parce que j'en ai pas eu beaucoup étant moi-même enfant. Et voilà, je voulais juste savoir si ça peut encore venir ou non. Il a 15 ans et demi. Et oui, effectivement, c'est une grande chance, en voyant ses amis du même âge qui n'ont pas la même qualité de peau. Voilà. Est-ce que c'est encore possible ou pas?
Effectivement, si ses deux parents n'ont pas eu d'acné et que lui-même n'a pas d'acné à son âge, il y a peu de chances qu'il développe une acné, en tout cas une acné sévère à partir de maintenant. Ceci dit, avec l'acné, on n'est pas devin et tout peut arriver. Il est possible que dans sa vie, il développe de l'acné comme 80% des gens au cours de leur vie.
Et on consacrera une émission à l'acné. Il existe l'acné juvénile, mais à l'âge adulte, on peut également avoir de l'acné.
Tout à fait, oui. Il y a à peu près... ça touche encore plus les femmes que les hommes, et c'est à peu près 30% des femmes qui souffrent d'acné adulte.
Bon, Frédéric, rassurez-vous, et rassurez votre fils, tout va bien pour l'instant. Merci de nous avoir appelé. Beaucoup de questions ce matin. Par exemple, que pensez-vous de l'acide hyaluronique? C'est une molécule, on l'a dit tout à l'heure, naturellement présente dans le derme. Qu'est-ce que vous pensez de ces crèmes à base d'acide hyaluronique? Est-ce que c'est bon pour la peau?
Oui, l'acide hyaluronique est une substance naturelle qui a une propriété d'hydrophilie. Elle retient l'eau. Lorsque nous avons des grosses molécules, elles ne vont pas pénétrer dans le derme et donc elles vont avoir un rôle hydratant. Mais il y a des formes d'acide hyaluronique qui arrivent à pénétrer dans le derme et qui vont redonner de la souplesse à la peau.
Un mot de conclusion, en quelques mots, comment avoir une belle peau au terme de cette émission Dermatodré, quelques grands conseils
Je dirais que le premier conseil pour sentir qu'on a une belle peau, c'est d'abord de l'accepter. Parce qu'en fait, on est tous trop perfectionnistes vis-à-vis de notre peau, à guetter le poil, la tache, la ride. Notre peau, elle fait un travail magnifique. Chaque jour, c'est quand même un organe qui arrive à se renouveler. Et ça, c'est beau.
Professeur Rambert.
Moi, je pense qu'il faut se reposer, enlever le stress et veiller beaucoup à son alimentation.
Oui, l'hygiène de vie, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte pour avoir une belle peau et limiter les facteurs extérieurs qui vont causer des dommages.
Merci à tous, merci Dermatodré, merci Flora Fischer et professeur Philippe Imbert. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur l'appli et sur le site de France Inter. N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission autour de vous. Demain, les bienfaits de la politesse.